Radio B, au Festival international du film fantastique de Gérard Way. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le magazine, c'est Jimmy à l'antenne et aujourd'hui je suis accompagné de Charlotte et de David. Un deuxième David de l'ancienne émission de cinéma Parlons Travelling et Gros Plans sur Radio B nous a également envoyé ses chroniques. Bonjour.
Salut.
Bonjour, aujourd'hui on vous propose un magazine un peu spécial. La semaine dernière, nous avons assisté au Festival international du film fantastique de Gérard May 2024 et on a vu plein de films.
On va vous donner nos coups de cœur et vous annoncer le palmarès. Prenez un bol de pop-corn et restez avec nous pour frissonner. Pour commencer, on va vous présenter le festival.
C'est un festival de cinéma, il a lieu chaque année à Gérard May dans les Vosges et cette année c'était la 31e édition. À l'affiche donc des films fantastiques qui vont sortir dans l'année et il y a aussi beaucoup de films d'horreur.
Il y a deux compétitions en fonction de la longueur du film. On compte une dizaine de films dans la catégorie long métrage. Les prix les plus prisés sont le Grand Prix et le Prix du Jury. Ils sont décernés par le jury long métrage. Les spectateurs décernent aussi un prix grâce à leur vote. C'est le prix du public. Quant aux courts-métrages, ils ont leur propre prix et jury.
On peut dire qu'il y a déjà eu du beau monde au palmarès des éditions précédentes. Si je vous dis Saw de James Wan ou Scream de Wes Craven, vous me dites quoi ?
Et moi je dis qu'ils ont connu un succès planétaire.
C'est devenu des classiques du genre.
On peut aussi citer L'Échine du Diable de Guillermo del Toro, Créature Céleste de Peter Jackson, Rec de John Balaguerro et Paco Plaza, L'Orphelinat de Juan Antonio Bayona ou encore Deux Sœurs de Kim Ji-woon et Dark Water de Hideo Nakata pour le cinéma asiatique.
Hideo Nakata qui revient cette année dans la compétition long métrage avec son film The Forbidden Play. C'était d'ailleurs le film d'ouverture du festival.
Place à la programmation. Quel film était en compétition dans la catégorie long métrage ?
Il y avait 10 films. Un film sur la famille patrifamiliale avec Amélia Children. C'est un film portugais de Gabriel Abrantes. Un orphelin découvre, adulte, qu'il a un jumeau et une mère. Et bien entendu, cela cache quelque chose. Un film qui a remporté le prix du jury.
Vampirisme avec En attendant la nuit de Céline Rouzet. Un film franco-belge. Un adolescent essaye de ne pas se faire remarquer car il se nourrit de sang. Cependant, amour et discrétion ne fonctionnent pas toujours de pair. C'est le deuxième gagnant du prix du jury, je vous le présente plus tard dans l'émission.
Épidémie et exorcisme avec When Evil Lurks de Demian Rugna, un film argentin. Deux frères découvrent un cadavre mutilé près de chez eux et ils ne sont pas au bout de leur peine. Un film que j'ai particulièrement aimé, je vous en parle aussi tout à l'heure. Il a remporté le prix de la critique et le prix du public.
Santé mentale avec La damnée d'Abel Danan. Un film français, on suit Yara lors de ses études à Paris. Folie, souvenirs et apparitions au rendez-vous, je vous en parle tout à l'heure.
Fâcheuse rencontre dans le désert avec The Seeding de Barnaby Clay. Un film en provenance des États-Unis. Si vous faites de la randonnée dans le désert et que vous tombez sur un enfant égaré, ne le suivez pas, cela pourrait mal finir. Il a gagné le prix du jury jeune de la région Grand Est. Un film qu'a adoré David de l'ancienne émission Parlons Travelling et Gros Plans. Il nous a envoyé sa chronique.
Le chasseur chassé avec Ressurgis de Francesco Camasecci. Un film italien. Une chasse en montagne entre amis ne se passe pas comme prévu. Quelque chose de malveillant rôde au fond des bois. Le cauchemar ne fait que commencer. Très belle image, très belle mise en scène, une ambiance glaciale, de nombreux éléments nous font dire que tout va mal se passer. Sûrement trop. Le film tombe selon moi abondamment dans la surenchère et la caricature et n'exploite pas assez les relations entre les personnages, ni son scénario, ni l'univers qu'il essaie de créer autour de la créature.
Deuil et nécromancie avec The Forbidden Play d'Hideo Nakata, un film japonais. C'était le film d'ouverture du festival. Si l'un de vos proches décède, n'enterrez pas son doigt dans votre jardin, vous pourrez le regretter.
On va oser dire nécrophilie avec The Funeral d'Orsun Beram, un film turc. Un conducteur de corbillard tombe amoureux de la défunte qu'il transporte. Il a la brillante et appétissante idée de la nourrir avec d'autres humains.
Trouble du sommeil avec Sleep de Jason Yu en provenance de la Corée du Sud. Un mélange subtil et plutôt surprenant entre horreur et comique. C'est l'histoire d'un couple sur le point d'avoir un enfant. Tout va bien jusqu'au jour où Yoon Soo, le mari, commence à faire des crises de somnambulisme. Lors de son sommeil, il devient dangereux pour lui-même, son chien et même son enfant. La mise en scène et les dialogues sont souvent simples mais bien pensés. Et on ne sait pas si on doit en rire ou être effrayé. comme dans la scène où Soo-jin, la mère, ne trouvant plus son bébé, va vérifier en premier lieu s'il n'est pas dans le congélateur. Un film qui a tout pour ravir les fans d'humour noir. On peut noter aussi la qualité du jeu des deux acteurs principaux, Yoo Min-jeong et Sun Kyun-li, un film que l'on peut voir sous le prisme de la vie conjugale. Il a gagné le grand prix du festival.
Famille, sorcellerie, métamorphose et disparition à l'école avec Perpetrator de Jennifer Reeder en provenance des États-Unis. Johnny, une jeune femme de 18 ans, déménage chez sa tante et subit une transformation. En parallèle, des mystérieuses disparitions d'étudiantes ont lieu dans son école. Un film au climat angoissant et à l'esthétique gothique où tous les personnages semblent menaçants et où le mystère perdure. Accompagné d'une bande-son oppressante, on ressent toute la solitude de Johnny face à cet environnement. Peut-être trop, le film tombe sans le vouloir dans la surenchère. Les scènes d'horreur sont à plusieurs reprises grotesques et les relations entre personnages ne sont pas vraiment approfondies. En bref, on ne s'attache pas à eux et on reste indifférent à leur sort. Un film finalement un peu brouillon sur lequel il ne faudra pas avoir trop d'attentes.
Il y avait également une dizaine de films hors compétition, une rétrospective vampire, une nuit requin, une nuit décalée, des tables rondes, un hommage à la littérature. Et n'oublions pas les courts-métrages. À présent, Charlotte, tu voulais nous parler d'un film hors compétition.
Je vais vous parler de mon coup de cœur du festival, le film québécois Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant d'Ariane Louis XVI.
Il n'y a plus de pochette.
Ouais, je sais, ta mère y va tantôt.
C'est pas vrai que c'est moi qui vais chasser pour tout le monde pendant 200 ans.
Pourquoi c'est moi qui est allé lundi?
Bravo.
C'est la compassion de votre fille qui est stimulée quand elle voit des gens mourir, pas sa faim.
L'ego, ça se développe. Tu vas voir, tu vas finir par aimer ça.
J'ai pas besoin de tuer du monde pour savoir que j'aimerais pas ça.
T'es-tu peut-être pas, Sacha, mais t'es mange pareil.
T'as juste à choisir ton préféré. Je vais te l'accrocher puis je vais te montrer comment le vider.
Non, merci, j'ai pas faim.
Qu'est-ce qui me dit que la prochaine fois, ce sera pas un camarade qui va s'en prendre?
Mon fils, c'est pas un meurtrier.
Ouais, à part moi-même, je tuerai jamais personne.
Moi, j'aime pas la vie. Ça me ferait plaisir de la donner pour une bonne cause.
On suit Sacha, jeune vampire qui a un problème. Elle est trop empathique avec les humains pour les mordre et ses parents décident de ne plus lui fournir de sang tant qu'elle n'aura pas appris à chasser. Elle rencontre un adolescent harcelé à l'école et au travail qui rêve de se suicider. La situation est idéale, elle doit tuer, il veut mourir, mais avant, ils doivent réaliser sa dernière volonté. Ensemble, ils vont s'émanciper de l'autorité parentale et chercher une façon d'exister dans ce monde avec leurs différences. Ce choix de mettre en avant les relations des personnages et non l'horreur qu'on attendrait du genre nous rappelle le faux documentaire « Vampire en toute intimité » et sa colocation de vampires. Car non, le film ne fait pas peur mais il est très drôle, la salle a explosé de rire à de nombreuses reprises. Avec son esthétique crépusculaire, le film est truffé de situations loufoques à l'humour noir. Un humain transformé en vampire accidentellement, un médecin pour enfants vampires, un clown qui essaie de faire rire une famille de vampires et la dispute entre le père et la mère de Sacha concernant le partage des tâches quotidiennes. Je vous conseille de le découvrir par vous-même, il vaut le détour.
Merci Charlotte, ça donne envie d'aller voir le film.
Et toi Jimmy, de quoi tu vas nous parler?
De When Evil Lurks, Cuando Acecha la Maldad ou encore en français Lorsque le Mal Rôde. C'est un film argentin réalisé par Demian Rugna pour son 5e long métrage. Ce réalisateur est un habitué de l'horreur et avait déjà été remarqué en 2007 avec Terrified, le film d'horreur argentin ayant connu le plus grand succès commercial. Tout commence quand deux frères agriculteurs découvrent une moitié de corps, le bas, dans un champ. Leur enquête les amène à découvrir un homme alité, obèse et couvert de pus, Uriel, dans une habitation voisine. Son apparence est pestilentielle, elle suffit à instaurer un climat de tension. L'homme, bien qu'incapable de bouger, semble possédé. On assiste ensuite à la descente aux enfers des deux frères. Ils ont beau lutter pour leur survie et celle de leurs proches, la gravité de la situation les rattrape toujours. Ils ne trouvent pas de solution. When Evil Lurks met habilement en scène des hommes normaux, impuissants et en panique face à la catastrophe qui arrive et dont les choix ne font qu'empirer la situation. Toute la faiblesse humaine face à un mal qui ne fait que croître. Ajoutez en face un démon vraiment très crédible, presque intouchable, pouvant surgir de n'importe qui à n'importe quel moment d'une manière profondément malsaine et immorale, et des alliés qui ne s'avèrent bien souvent d'aucune aide, et vous pourrez saisir toute la solitude dans laquelle nos personnages sont plongés. Demian Rugna nous livre là un film d'exorcisme et d'épidémie plutôt original. On est loin du prêtre exorciste catholique avec sa croix et son eau bénite, ou encore d'invasion zombie en surnombre, When Evil Lurks comporte des scènes gore, mais est loin de tomber dans le piège de la surenchère. Elles sont toujours là pour servir la narration du film. Beaucoup de scènes sont simples, anodines sorties de leur contexte, mais pourtant lourdes de sens. Des personnes qui appellent et qui sont censées être mortes, des enfants aux propos morbides ou qui indiquent la mauvaise direction. Plusieurs éléments d'horreur ne sont pas montrés à l'écran, mais suggérés, laissant au soin le spectateur d'imaginer ce qui s'est passé et découvrir avec nos deux frères tout le tragique de la situation. L'un des thèmes exploités avec brio dans ce film est les relations familiales. On approfondit tout au long du film les relations entre les deux frères Pedro et Jimmy, l'ex-femme de Pedro, ses enfants, son passé. Le jeu d'acteur est vraiment très convaincant comme le montrent les nombreuses scènes de panique et de colère. Le rythme est globalement bien maîtrisé, avec un enchaînement de scènes d'action et d'horreur, et des moments plus calmes qui approfondissent les relations entre les personnages, bien que là, certains pourraient trouver que le film s'essouffle tant les scènes du début sont bluffantes. On pourrait aussi reprocher la présence de certaines thématiques manquant de développement, comme le rapport au réel de Pedro, l'un des deux frères. Vous l'aurez compris, on a passé un bon moment devant When Evil Lurks. Le film sortira en salle en avril 2024 et on ne peut que vous le recommander.
Merci Jimmy pour cette chronique.
C'est à présent à David de nous parler du film En attendant la nuit.
En attendant la nuit, réalisé par Céline Rouzet, est l'une des belles surprises franco-belges de ce festival qui redonne un coup de jeune au film de vampire.
Et ça t'a fait quoi quand tu l'es chez maman?
Quoi?
C'est juste pour savoir, Hans.
L'histoire nous plonge dans une petite ville montagneuse française où la famille Ferral décide d'emménager. Leur fils, Philémon, est un adolescent pas comme les autres. Pour survivre, il a besoin de sang humain. Dans cette banlieue pavillonnaire un peu trop tranquille, ils font tout pour paraître ordinaire, banal et ennuyeux, comme le dit le père. Mais Philémon tombe amoureux de sa voisine Camilla et attire l'attention sur eux. Tantôt comédie et drame, le film ne nous laisse pas indifférents et apporte un réel message sur la tolérance et la différence dans la société. Les personnages nous font tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde et nous transportent entre rire et émotion.
Merci David pour cette chronique. À présent, c'est à un autre David de nous parler de son coup de cœur.
Hello? Hello? Can anybody hear me? Get me out of here!
The Seeding, titre qui signifie en français l'ensemencement, est pour moi la petite pépite du festival. Il nous montre les mésaventures d'un homme ayant eu la mauvaise idée de partir seul dans le désert pour faire de la photographie. Tout aurait pu se passer tranquillement s'il n'était pas tombé au retour sur un jeune garçon prétendument perdu. En voulant lui porter assistance, il se fait balader par le gamin qui ne cherche en réalité qu'à le perdre, avant de le laisser seul, la nuit tombée au milieu du désert. Dans son errance, il finit par trouver une petite maison au fond d'un gouffre. Il pourra se réjouir d'y trouver une femme bienveillante et un lieu où passer la nuit. Mais il aura la désagréable surprise de s'apercevoir le lendemain matin que l'échelle grâce à laquelle il a pu descendre dans le trou a soudainement disparu. Résultat, il se retrouve coincé, sans possibilité de remonter. Plus qu'un film d'horreur, The Seeding est un film de survie en milieu hostile. Son décor, un désert situé dans un lieu inconnu, qui pourrait aussi bien être aux États-Unis qu'en Australie. Deux destinations qui viennent rapidement à l'esprit, car c'est aussi là que l'on trouve le même type de méchants que dans l'histoire, à savoir de jeunes rednecks, c'est-à-dire des populations locales pauvres et dégénérées. Ce terme péjoratif renvoie à un sous-genre, souvent associé aux films de survie, le redneck movie. Le film de redneck, dont les exemples les plus connus sont Délivrance ou Massacre à la tronçonneuse. Alors pourquoi le redneck movie? Eh bien parce qu'une fois au fond du trou, notre malheureux héros découvrira qu'il a été fait prisonnier par un groupe de jeunes garçons auquel appartient justement le jeune du début. Posté au sommet des collines qui constituent les murs de cette prison en plein air, ils font régulièrement leur apparition pour narguer leurs victimes. Fait comme un rat, le prisonnier aura bien du mal à supporter sa détention tout au long du film et ne comprendra que trop tard le rôle que l'on attend de lui. Un indice, tout est dans le titre. Ce film fascinant est une belle réussite pour le réalisateur anglais Barnaby Clay, qui signe là son premier long métrage. Il évoque également une autre réussite de ces dernières années, Midsommar, réalisé par Ari Aster en 2019. On y retrouve en effet de nombreux éléments similaires, comme par exemple l'ambiance pesante, le découpage en plusieurs parties dont les noms font référence à des cycles lunaires, les peintures naïves au mur, le climat de secret, les rituels, la terreur en plein soleil et des images chocs. Il s'inscrit ainsi dans l'orbite d'un troisième sous-genre, la folk terror ou horreur folklorique, dont les histoires ont pour cadre un environnement rural, impliquant des croyances païennes liées à la nature. Son exemple le plus célèbre étant The Wicker Man, le dieu d'osier, sorti en 1973 avec Christopher Lee. Héritier d'une riche lignée de films, The Sidling est donc un film curieux et original à ne surtout pas rater.
Can anybody hear me?
On remercie David de nous avoir envoyé sa chronique. Charlotte voulait nous présenter un deuxième film en compétition.
Oui, je vais vous parler de La damnée d'Abel Dana, un film français. Une jeune étudiante marocaine arrive à Paris pour faire ses études. Elle va devoir s'adapter à sa nouvelle vie et à sa nouvelle ville malgré son agoraphobie. Mais une nouvelle épidémie se propage, elle se retrouve confinée dans son petit appartement et n'ose plus sortir pour aller chercher ses médicaments. Des événements étranges se produisent, hallucinations, agressions imaginaires, plafonds qui donnent sur un autre monde ou encore sorcières issues du folklore marocain. Il s'agit du premier long-métrage du réalisateur et il faut noter des idées de mise en scène intéressantes. Le plan panoramique qui couvre plusieurs jours de vie et renforce la sensation d'enfermement, les ordures qui s'entassent dans son appartement et la lumière qui verdit plus sa santé mentale décline, son journal intime enregistré à la webcam qui nous aide à comprendre ses émotions. La première moitié du film nous laisse douter, est-ce qu'elle sombre dans la folie, est-ce qu'elle est hantée, mais malheureusement le final est assez décevant.
Merci Charlotte pour cette chronique.
C'est bientôt la fin de notre magazine. Oh. Avant de se quitter, on peut dire un petit mot sur le festival, Charlotte ?
Tout d'abord, on tient à remercier tous les bénévoles du festival qui sont d'une grande gentillesse avec les festivaliers. Mais, car oui, il y a un mais, le système de réservation n'est pas vraiment au point. Personnellement, je vous déconseille de prendre le pass. Il vous garantit un accès gratuit aux séances, mais il faut quand même les réserver. Et le problème, c'est que si les réservations sont ouvertes à 11h, à 11h01, les places sont déjà toutes épuisées. Il faut donc se connecter très régulièrement sur le site et espérer qu'un autre festivalier ait annulé sa séance pour espérer avoir une place. Et en plus, si vous y allez en groupe, comme nous, préparez-vous à rafraîchir la page toutes les 5 minutes pendant une semaine pour avoir une séance ensemble, quitte à voir un film qui n'intéresse personne. Malgré tous nos efforts, on n'a pas pu tous voir certains films qui nous intéressaient. Personnellement, si je retourne au festival, je prendrai des billets à la séance, qui eux étaient quasiment toujours disponibles et permettent de choisir les séances qui vous intéressent vraiment.
Merci Charlotte pour ce conseil.
Notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. On se dit à une prochaine fois.
Et à bientôt peut-être pour vous présenter un autre festival.
Au revoir. Radio B, au Festival international du film fantastique de Gérard Miller.